Bonjour, nous voici de retour donc pour notre rubrique Culture éclair, où nous allons vous parler aujourd'hui de Château en Fête et de nombreux rendez-vous. Nous avons le plaisir de recevoir Christophe Manger.
Bonjour.
Christophe Manger est propriétaire gestionnaire du château de Saint-Germain-de-Salambre, entrepreneur culturel, patrimonial et touristique. Il fait vivre un domaine qui lui vient de ses grands-parents. Il est également partenaire propriétaire de Château en Fête. Jolie manifestation qui se poursuit jusqu'au 28 avril. Il a été aussi ancien directeur artistique du Printemps des Arts à Nantes. Il s'est aussi occupé d'un centre national chorégraphique, si je ne dis pas de bêtises, du côté de Rennes. Et depuis peu, il est délégué départemental de la demeure historique. Christophe Manger, est-ce qu'on peut commencer par parler de votre belle demeure, de votre château ? Il vous vient de vos grands-parents, je crois.
Oui, ce sont mes grands-parents alsaciens qui l'ont acheté après la guerre, en 1950. Comme vous devez savoir, une partie des Alsaciens, donc en 1939, ont été repliés en Dordogne. Les 4/5 sont rentrés sur les 80 000 Alsaciens, mais un cinquième sont restés. Et mes grands-parents donc, ont souhaité rester dans la région et acheter une maison. Et puis finalement, pour le prix d'une maison, ils ont trouvé un petit château à vendre, un petit château de village, qui est donc dans la famille depuis 75 ans.
Un château où il y a eu de la restauration, alors ?
Oui, enfin, c'était en bon état, puisque, en fait, il y a plus de 2000 ans d'histoire dans le secteur. Sous le château se trouve la villa gallo-romaine principale de la vallée du Salambre. On ne sait pas trop où, mais enfin, en tout cas, c'est attesté. Et le château lui-même a 800 ans d'histoire, puisque la partie la plus ancienne est une tour chevalière à l'arrière du XIIIe siècle. Ensuite, tout le reste est développé comme un vrai Lego périgourdin, avec un logis Renaissance, différentes extensions au XVIIe, XVIIIe et XXe siècle.
Si j'ai bien entendu dire, je crois que Stéphane Bern a fait parler de vous à un moment donné.
Oui, alors il se trouve que c'est un château un peu particulier parce qu'il est en fond de vallon, ce qui est moins fréquent en Périgord. La plupart des châteaux sont en hauteur, mais parce qu'il est entouré de douves. Et non seulement il est entouré de douves, mais même il y a un système hydraulique à deux niveaux qui est unique dans le Périgord, avec à l'arrière des douves un réservoir hydraulique de régulation des eaux pluviales. Et entre le niveau supérieur et le niveau inférieur, donc il y avait donc une grande digue de 50 mètres de long, dont une partie s'est effondrée effectivement fin 2017, au moment du premier appel pour la mission Berne et de l'auto du patrimoine qui venait d'être lancé. Et même si ma digue ne me semblait pas très spectaculaire, j'ai candidaté et le hasard a voulu que cette digue médiévale sur radier gallo-romain soit la seule lauréate de Dordogne de la première mission Berne 2018. Et le dernier, comme vous avez peut-être vu dans la presse, mon collègue avec lequel j'étais il y a quelques jours, c'est le château de Lerme, 6 ans après.
Voilà. Oui, tout à fait. Et les travaux
Alors, n'ont pas encore eu lieu. Effectivement, ils auraient dû avoir lieu dans les 4 ans, mais d'une part, le Covid a un petit peu retardé les choses. Et puis, le domaine a été démembré. Et la ligne de séparation de propriété, en fait, passe au milieu de la digue. Ce qui fait que j'avais une mitoyenneté à gérer, qui était à l'origine de mon problème, qui allait me compliquer la vie pour faire des travaux à deux, et qui n'excluait pas que finalement le problème se repose dans quelques années. Donc le temps a au moins servi à quelque chose, c'est que j'ai négocié avec le voisin, en l'occurrence la collectivité, pour récupérer une partie du terrain il y a 6 mois, c'est tout récent, et donc maintenant en pleine propriété je vais pouvoir faire les travaux cette année.
C'est un domaine de combien d'hectares ?
Alors c'est tout petit, d'abord parce que c'est un château de village, donc la moitié du château fait face au village, donc appartient à des propriétaires privés, ce qui est plus que normal. Et la partie arrière devait faire plusieurs hectares, enfin on ne sait pas trop, là maintenant il en reste 1 hectare, mais c'est largement suffisant pour l'entretien.
Tout à fait. Ça veut dire que dans les années à venir, vous avez pour projet d'aménager, de développer des jardins ?
Ben oui, nécessairement. Un château est forcément dans un écosystème vert autour, surtout qu'il y a une ancienne basse-cour qui est transformée donc aujourd'hui en cour principale du château. Je vais commencer par m'occuper de la digue, après il y aura quelques enjeux aussi sur les toits, et le jardin viendra par la suite.
J'ai lu que vous aviez des brebis qui se promenaient. Donc, si on allait visiter chez vous, valait mieux ne pas amener son petit chien, ses animaux.
Mais je vois que vous savez beaucoup de choses. Oui, alors, quand je suis arrivé, quand j'ai repris parce que donc mes grands-parents sont morts. Mon grand-père était donc Louis Vogel, le professeur d'histoire-géographie du lycée d'état de garçon, comme on disait, donc Bertrand de Born à Périgueux dans les années 60 et il a eu pour élève toute une génération de joyeux adolescents qui sont aujourd'hui de très sages septagénaires comme Xavier Darcos, comme Michel Testu, comme André Mohamel qui ont été ses élèves. Donc toutes les notes de ces personnes-là sont au premier étage chez moi. Et mon grand-père est mort très âgé à l'âge de 105 ans il y a une quinzaine d'années. Donc mes parents toujours vivants ont passé leur tour aussi, mes frères et sœurs n'en voulaient pas, donc j'ai repris leur part et je suis maintenant propriétaire depuis 2016 et c'est ma résidence principale depuis 2017. Alors, pour répondre à votre question sur les petites bêtes, c'est vrai que même un petit hectare, en fait, je passais mon temps à tondre, etc., avec des coups de tondeuse, de carburant, éventuellement de jardinier, d'élimination des déchets, plus éventuellement acheter de l'engrais pour revitaliser tout ça. Et puis finalement, on m'a soufflé l'idée il y a quelques années, qui fonctionne très bien, d'avoir deux chèvres et deux brebis qui sont parfaitement autonomes, qui me font tout le travail. Vous voyez, là, on est autour du 20 avril. Moi, je n'ai pas tondu une fois et c'est tout ras. Et donc, je suis dans l'économie durable la plus parfaite.
Sans fleurs.
Alors, vous avez raison, les chèvres ont mangé les vieux rosés de ma grand-mère. Mais cela dit, comme le domaine avait été un peu moins entretenu, il s'agissait aussi quand même de refaire un peu place nette. Et pour ça, les chèvres étaient parfaites. Après, je les exclurais d'un endroit où on remettra des fleurs.
Aujourd'hui, donc, il est possible de visiter ce très beau château. On visite le rez-de-chaussée, c'est ça ? Qu'est-ce qu'on
y
trouve ?
Alors, en fait, c'est vrai que l'architecture est assez originale et unique, donc on passe quand même pas mal de temps à l'extérieur, devant, derrière. Et puis, effectivement, c'est un château qui est sur deux niveaux. Le premier étage est la partie privée, donc effectivement, j'ouvre le rez-de-chaussée. On y trouve deux grandes cuisines, une cuisine qui date de la Renaissance, une autre plus récente, mais qui a servi jusqu'à la guerre. On y trouve la grande salle Renaissance où je fais les banquets le soir pour le grand public. Donc finalement, on visite quasiment tous les volumes au rez-de-chaussée.
Quand on est de l'extérieur, on se pose toujours la question, et l'entretien, comment fait-il pour entretenir une aussi belle bâtisse?
Si vous voulez, c'est comme pour tout. À partir du moment où vous entretenez correctement, sauf exception, il n'y a pas d'énormes travaux à faire. Comme ça a été la résidence de mes grands-parents pendant plus de 50 ans, en fait, c'est une maison qui fonctionne toute seule. Elle est là depuis 800 ans, elle sera là dans 800 ans, et elle tient toute seule. Alors oui, de temps en temps, il y a des bricoles à faire. Après, oui, de temps en temps, il faudra faire des choses un peu plus importantes. Mais depuis que je suis là, elle fonctionne toute seule, hein, la maison.
Et comment chauffe-t-on une si belle surface ?
Alors pour l'instant, c'est à l'ancienne, donc c'est avec des grandes cheminées et du bois. Ça marche très bien. Pour la petite histoire, mais ça, les visiteurs ne le voient pas, quand mes grands-parents alsaciens sont arrivés donc, en 1950, vous savez que c'était les grands froids de l'abbé Pierre, etc.
54.
Et donc leur premier réflexe a été de faire venir leur faïencier d'Alsace. Et donc nous avons trois grands poêles alsaciens en faïence au premier étage qui fonctionnent extrêmement bien. Et c'est le seul château du Périgord avec des poêles en faïence alsaciens.
Qui sont d'ailleurs des poêles magnifiques.
Bah oui, voilà.
Tout à fait, de très très belles pièces. C'est dommage qu'on ne puisse pas monter au premier étage.
Ah bah vous en demandez beaucoup. Bon, ça viendra peut-être un jour, mais bon pour l'instant...
Juste
voilà.
Pour les poêles. Donc, on va poursuivre sur Château en Fête. Château en Fête, donc, on peut dire que vous en êtes un partenaire propriétaire. Château en Fête est très développé sur le nord de ce département, mais je dirais sur l'ensemble du département. Mais je parle de ce nord du département parce qu'il a le privilège d'avoir une communication tout à fait spécifique. Même le canton de Saint-Astier a choisi de communiquer précisément sur quatre châteaux qui sont... Le vôtre, donc celui de Saint-Germain, celui de Grignoles, celui de Chauveau et celui de Bélé. Comment ça se passe, les visites, si on veut venir vous voir ?
Alors, pour ce qui est globalement de l'opération Château en Fête, moi je trouve que c'est une magnifique initiative donc, du comité départemental du tourisme et puis du département de la Dordogne. Au départ, la première édition devait avoir lieu en 2020. Je pense que vous vous souvenez où nous étions en avril 2020, hein, donc verrouillés chez nous. Donc finalement, ça a démarré en 21 et nous en sommes à la quatrième édition. La première édition était très locale, puisque même en 21, on était quand même un peu confinés. En 22, donc, il y a eu principalement des visiteurs du département. En 23, l'an dernier, moi, j'ai eu pas mal de visiteurs qui venaient un petit peu des départements voisins, donc Limoges, Brive, Bordeaux. Et là, cette année, il y a des gens qui viennent de beaucoup plus loin, y compris pour plusieurs jours. J'en ai eu du Béarn, j'en ai eu de la Gironde, j'en ai eu de la Corrèze, j'en ai évidemment de Paris, d'ailleurs. J'ai eu des Anglais ce matin. Donc voilà, de ce point de vue-là, c'est une excellente opération. Et effectivement, moi, j'ai donné un petit coup de main au comité départemental du tourisme, qui est le seul organisateur, parce qu'il n'avait pas les clés, c'est le cas de le dire, ou en tout cas les contacts pour tous les châteaux. Alors, c'est pas que je les ai, mais j'en connais un certain nombre. Et donc, je trouvais l'opération tellement méritoire que je leur ai donné un coup de main pour sensibiliser des propriétaires gestionnaires de monuments historiques privés, en l'occurrence, que je connaissais, et qui n'avaient pas entendu parler de l'opération. Alors, pour votre deuxième partie de question sur la question des visites, chacun s'organise comme il veut, ce qui est plutôt une grande liberté, puisque le principe de Château, en fait, c'est que pour pouvoir s'inscrire à la manifestation sur les 15 jours, il faut ouvrir un minimum de 1 jour. Et plus si affinité. Alors moi, je suis à l'autre bout du spectre, puisque moi, j'ouvre tous les jours. J'en profite pour être ouvert les 16 jours. Et après, chacun donc propose ce qu'il veut et organise les modalités de réservation, gratuite ou payante, comme il veut. Alors, pour ce qui est de mon choix à moi, je passe par une plateforme de réservation et je demande effectivement au public pour mes visites. Donc moi, je fais des visites le matin et l'après-midi, toutes les heures, 10h, 11h, 14h, 15h, 16h et 17h. J'assure l'essentiel des visites, mais à la fois parce que c'est un peu lourd et puis aussi pour varier les plaisirs, j'ai une guide conférencière, Laure Adam, qui prend les créneaux de 10h et de 14h. Chacun choisit en fait le guide qu'il souhaite et puis l'horaire qu'il souhaite. Et je demande effectivement à ce que les réservations soient faites en ligne sur une plateforme donc, dont le lien figure sur la page du château, puisque le vrai carrefour d'information, c'est le site du châteauenfête.com, et chaque château a sa page. Donc il y a un peu plus de 80 châteaux, donc il y a un peu plus de 80 pages, et chacun y met effectivement ce qu'il souhaite. Donc les modalités de réservation sont là. Alors je le reconnais un tout petit peu contraignant pour les visiteurs qui ne peuvent pas comme ça débarquer a priori le nez au vent, mais inversement, moi ça me permet à la fois de gérer les flux, et puis bon, en semaine, parfois il y a moins de monde, ben, ça me permet d'aller faire des courses, etc. Enfin voilà, donc je sais à l'avance si j'ai des visiteurs ou pas. Et en fait, ça marche très bien. Le public est très respectueux de cela. Et ce sont mes modalités de fonctionnement.
Oui, mais je pense que le public comprend très bien que c'est un lieu de vie. Et que ce lieu de vie, il faut le respecter avec son cadre et puis avec votre vie aussi également.
Tout à fait. Mais les gens, en plus, sont très reconnaissants que, effectivement, dans mon cas, mais dans le cas de beaucoup d'autres, un château privé soit effectivement ouvert au public à cette occasion, à quelques autres occasions, mais enfin, principalement à celle-là me concernant.
Donc, Château en fête, une très belle opération qui se poursuit jusqu'au 28 avril. Un autre point, vous êtes toujours très actif dans le domaine de la culture, donc vous avez été directeur artistique du Printemps des Arts en Nantes, qui s'est terminé, je crois, dans les années
2014-2015, effectivement.
Et vous avez été aussi directeur d'un...
Alors, en fait, moi, j'ai fait toute ma carrière dans le secteur culturel.
Oui.
Alors, maintenant, je suis dans la pierre et dans le patrimoine. Mais avant, j'étais plutôt dans la partie immatérielle et le spectacle vivant. Donc, effectivement, administrateur d'orchestre, pour ceux qui connaissent donc, les Arts Florissants de William Christie, qui est le principal orchestre baroque français. J'ai commencé là. Par la suite, effectivement, je me suis occupé de danse contemporaine pour élargir un peu le spectre. Et j'ai co-dirigé le centre chorégraphique de Rennes et de Bretagne dans les années 90 et 2000. Et puis plus récemment, effectivement, j'ai dirigé un festival de musique classique à Nantes pendant une dizaine d'années.
Les Arts Florissants, vous aviez eu l'opportunité de venir jouer peut-être à Chancelade, non ?
Non, mais c'est drôle ce que vous dites, parce que dans les années 80, moi je suis resté 4 ans, la deuxième partie des années 80, en fait, c'était le tout début des partenariats régionaux. Et donc le ministère de la Culture nous avait demandé, mais surtout avait organisé le mariage avec la région Aquitaine à l'époque. Et son président, donc, était Jacques Chaban-Delmas, qui avait dit banco, et donc j'étais chargé de diffuser des concerts dans les 5 départements de la région historique. Et je me souviens effectivement que j'avais vendu des soirées à Ribérac, d'une part, au Festival du Périgord Noir, qui a aujourd'hui 40 ans, mais qui démarrait à l'époque, principalement parce qu'en fait, aujourd'hui, je découvre, puisque j'y habite depuis 6-7 ans, que le Périgord est un département culturellement très dynamique. Mais je pense que pour les anciens, personne ne me contradira, il y a 40 ans, c'était quand même un peu plus calme.
C'est vrai, c'est vrai. Mais c'est quand même... C'était déjà un joli département touristique, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a de nombreuses manifestations tout au long de l'année.
Sans arrêt.
Christophe Manger, nous vous remercions beaucoup.
Merci de votre accueil.
Nous avons passé un très moment ensemble. Nous avons été ravis de vous accueillir. Nous allons vous souhaiter une belle ouverture de château au sein de cette manifestation et peut-être à très bientôt.
Mais écoutez, volontiers. Alors, juste une information que je n'avais pas mentionnée, c'est qu'en plus des visites que je fais, on nous demande de faire des choses un petit peu originales. Et donc les samedis soirs, il va donc en rester un le samedi 27. Je fais des dîners au château, donc sous forme un peu de table d'hôte, avec le propriétaire à table. Et c'est toujours très, très amusant.
Oui, c'est une excellente idée. On se donne rendez-vous, on y va.
Volontiers.
À très bientôt, merci beaucoup. On poursuit maintenant avec une musique, Castle on the Hill de Ed Sheeran. À tout à l'heure. When I was 6 years old, I broke my leg.
And I was running from my brother and his friends, and tasted the sweet perfume of the mountain grass I rolled down. I was younger then. Take me back to when I found my heart, broke it here, made friends and lost them through the years. And I've not seen the boring fields in so long. I know I've grown, but I can't wait to go home. Old and smoking and rolled cigarettes, running from the law through the backfields and getting drunk with my friends. Had my first kiss on a Friday night. I don't reckon that I did it right, but I was younger then. Take me back to when we found weekend jobs, and when we got paid, we'd buy cheap spirits and drink them straight. Me and my friends have not thrown up in so long. Oh, how we've grown, but I can't wait to go home. Sell clothes, one works down by the coast, one had two kids but lives alone, one's brother overdosed, one's already on his second wife, one's just barely getting by. But these people raised me and I can't wait to go home. And I'm on my way, I still remember these old country lanes when we did not know the answers. And I miss the way you made me feel. It's real when we watch the sunset over the castle on the hill.
Nous voici de retour pour notre agenda, une dizaine de jours, où sortir en Périgord. Une sélection, bien sûr, parce que nous savons qu'en Périgord, nous pourrions sortir tous les soirs. Donc, je vous propose de démarrer le 20 avril, d'aller faire un tour à Aimée, puisque nous aurons un magnifique concert de jazz avec Anna Carla Mazza. Anna Carla Mazza est née à Cuba. Elle a travaillé avec le Buena Vista Social Club et elle vient nous faire partager donc sa culture, ses sonorités cubaines et brésiliennes. Le tango, le huayno, la bossa nova. Donc, nous vous invitons à aller à l'espace culturel L'Éden, qui est donc avenue de la Bastide à Aimée, et la réservation est conseillée donc samedi soir à 20h45. Encore le vin, donc samedi, et à quelques heures de notre première diffusion, nous vous proposons de découvrir le COS de Savignac-les-Églises, puisqu'il y a une randonnée qui est organisée par le FANAL, par l'Office du tourisme intercommunal du Grand Périgueux. Donc ce sera de 14h30 à 17h. Rendez-vous donc sur place, au COS de Savignac, rue du Camp Militaire, où vous pourrez découvrir donc ces cabanes en pierre sèche, ce paysage assez insolite, assez sec, et qui est aussi classé espace naturel. Donc un joli rendez-vous pour toutes les réservations 05 53 53 10 63, donc sur le COS de Savignac cet après-midi à 14h30. Ensuite, pour la semaine à venir, visite guidée de Périgueux à la Renaissance. C'est vrai que ce n'est pas la première fois que je vous en parle, mais Périgueux est riche d'un très beau patrimoine qui vaut le coup d'œil. Donc, je vous invite de nouveau à aller à la découverte des hôtels particuliers, des cours intérieurs, des escaliers qui font vraiment la renommée de ce Périgueux du XVIe siècle. Donc, rendez-vous à l'Office du tourisme. Rendez-vous à 15h pour cette visite qui durera 1h30. Pour plus d'informations, 05 53 53 10 63. Deuxième visite, une visite animée à la ferme pédagogique de Brantôme au domaine de la Roque. Ce sera le 26 avril 2024 à partir de 10h. N'hésitez pas à y aller en famille. Donc pour toute information, 06 65 02 97 68. Et je dirais, dans la même lignée, allez découvrir aussi une chèvrerie. Une chèvrerie à Saint-Vivien. Saint-Vivien au lieu-dit Mira. Donc, sur place, vous pourrez rencontrer des personnes qui élèvent des chèvres poitevines, qui font du fromage fermier bio, qui vous apprendront à le réaliser. Ils feront également partager leur mode de vie, visiter le lieu. Allez à la rencontre de ces personnes, donc, le 26 avril de 15h40 à 16h40. Et pour finir, juste dans les derniers jours de Château en Fête dont nous parlions tout à l'heure, je vous propose une soirée au Château Barrière. Le Château Barrière qui fait son spectacle pyrotechnique avec la Pyroue Infernale. C'est le 27 avril de 21h30 à 22h. C'est gratuit. C'est un magnifique spectacle. Donc, courez au Château Barrière, qui est à Périgueux, pour profiter de ces dernières heures. Pour plus d'informations, le 06 16 79 03 97. Et je vous propose de finir cette rubrique en musique. Notre pause musicale tout à l'heure était sur quelque chose d'assez contemporain. Nous vous proposons de partir sur des rythmes plus classiques avec donc Pump and Circumstance de Edward Edgard. Nous allons avoir l'impression de rentrer dans ces magnifiques châteaux. À très bientôt. Au revoir et merci.